franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, le cochon d'élevage 2.0 avec Isabelle Brockmann et Robert Barouki.
Mais ça, c'est la rançon de la sélection, c'est-à-dire ouais. qu'on a réussi à faire des porcs, à trouver, à mettre au point des porcs qui grossissent très vite, qui mangent beaucoup, 900 grammes de prise de poids tous les jours. Ouais. Donc en 5 mois, on a un porc qui fait 115 kilos et qui est bon pour partir à l'abattoir.
Ouais. Avec entre-temps une vie d'une tristesse absolue, puisque ce sont des animaux qui grandissent dans des salles blanches.
Oui, dans des tailles blanches, enfin dans des salles blanches, sur des caillebotis, sous lesquelles leur lisier s'accumule et qu'on vide de temps en temps.
Ouais. Dans cette phobie du pathogène en fait, parce que les éleveurs ont peur de cela.
Oui, mais dans un paradoxe très bizarre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lisiers dans les élevages et en même temps pour y entrer, quand on est un humain, il faut mettre des surchaussures, des blouses, stériliser complètement, parce qu'effectivement ces cochons sont très fragiles, et que dès qu'un pathogène entre...
C'est ça, en fait ils sont rendus fragiles, à force de vouloir protéger de tout, ils sont extrêmement fragilisés.
Oui, Robert Barouki. Si je peux me permettre, quand on sélectionne pour une propriété bien particulière, c'est-à-dire voilà, grossir vite, etc. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux en général, ils sont mieux pour cette propriété-là. Par contre, ils peuvent être beaucoup plus fragiles vis-à-vis des infections, et il y a une relation très nette, d'ailleurs, qui est vraie partout, entre infection et densité. Ouais. C'est vrai pour les humains, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai tout à l'heure, on a parlé du blé quand on met... Mais il y a une relation absolue. Et donc, on règle ça avec beaucoup de substances chimiques, des antibiotiques, des antifongiques, etc. Et donc, on est dans un cercle en fait, qui n'est pas nécessairement...
L'industrie du médicament vétérinaire est florissante, hein, évidemment.
Elle est florissante. Hein. On utilise, d'ailleurs, on utilise plus d'antibiotiques dans les élevages que pour les humains. Ouais. Sur les quantités utilisées en France chaque année, la majorité va dans l'élevage. Ouais. Et on en utilise énormément, particulièrement dans ce qu'on appelle les phases critiques, c'est-à-dire dans la jeunesse des animaux. Les poussins sont pratiquement tous traités, les porcelets à la naissance. Les premières semaines, les premiers jours des animaux, compte tenu des conditions d'élevage, on a des antibiotiques à large spectre, on les utilise beaucoup. D'ailleurs, c'est très drôle, les veaux vivent moins de 6 mois. Et le chiffre officiel, c'est qu'ils reçoivent en moyenne 5,4 traitements antibiotiques en 6 mois de vie. Voilà, les animaux jeunes sont beaucoup traités.
Mardi, la question du statut de l'animal, avec le biologiste marin Gilles Boeuf.
La vraie question, c'est que l'humain s'attribue une dignité. Il s'est appelé lui-même Homo sapiens, il ne faut pas l'oublier. Et il y a des animaux qui portent des noms. Et pour l'instant, la question, c'est que cette dignité que l'humain s'est lui-même donnée l'oblige à avoir des responsabilités vis-à-vis des animaux. Donc le regard doit changer. Le premier animal domestiqué dans l'histoire de l'humanité, c'est le chien. Il y a peut-être 35 000 ans. Hein. Vous savez qu'une des théories actuelles de l'extinction des hommes de Néandertal pourrait être liée au fait qu'on ne trouve jamais de chien associé au gisement de Néandertal. Ils n'ont pas domestiqué le chien, et donc Sapiens a eu un avantage par rapport à Néandertal. Et puis ensuite, ce chien, on sait qu'il vient du loup. Et quand on voit des tests aujourd'hui de perception, de sensibilité, d'intelligence entre un chimpanzé et un chien, sur les tests classiques, le chimpanzé est supérieur, mais sur les tests de connivence par rapport à l'humain, le chien est meilleur. Le chien sait retrouver quelqu'un qui l'a scruté, ou la personne que j'ai pu scruter moi. Ça, c'est super intéressant, parce que la coévolution est fondamentale. Tout à l'heure, j'écoutais l'histoire des chevaux que notre ami Eric racontait. En fait, on est passé du cheval animal au cheval vapeur, hein, quand on invente la machine à vapeur, et puis qu'on commence à utiliser ce charbon et ce pétrole qui nous a mis dans la situation actuelle. Tout ça raconte toute l'histoire, en fait, de la coévolution de l'humain avec cette nature qui l'entoure. Et ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est clair, vis-à-vis de l'animal, c'est évident, c'est cette harmonie, en fait, qui a toujours existé, qui peut être violente. Hein. Vous savez, l'obsession d'un animal, et l'homme préhistorique c'était pareil, c'est trouver à bouffer, trouver à manger, et ne pas être mangé. C'est la première intranquillité, c'est la première inquiétude d'un être vivant sensible qui reconnaît cela. Et l'homme va changer, l'humain va changer quand il va commencer à domestiquer le feu, puis après, évidemment, au néolithique, à inventer agriculture et élevage. Et là, une certaine arrogance dont il va s'emparer, d'abord en s'appelant aussi plus tard Homo sapiens, va le distancier vis-à-vis de l'animal. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve aujourd'hui.
Mercredi, le bébé, une véritable machine à apprendre, avec Édouard Jantaz.
Ces jeunes enfants, même chez les grands prématurés, dès qu'ils viennent de naître, ou chez les bébés de 3-4 mois, il y a un intérêt pour tout ce qu'il y a de nouveau dans cet environnement. Ouais. Et ils ont une capacité à extraire toutes ces propriétés de l'environnement.
Donc tous les stimuli, au fond, ont une action sur l'enfant.
Hein. Voilà, donc vraiment, ils sont intéressés. Alors après, très rapidement, ils vont s'habituer à ces stimuli, puis ils vont regarder autre chose. Mais ils ont une capacité à extraire ces régularités, à écouter, à capter l'attention, à la fois les visages de la maman, du papa, des bruits qu'ils ont entendus, les phonèmes. À la naissance, par exemple, le bébé, il peut apprendre n'importe quelle langue sur Terre, et puis 6-7 mois après, il ne reconnaît que les phonèmes de sa propre langue. Donc on voit qu'en quelques mois, cette capacité est incroyable, puisqu'elle permet de sélectionner les phonèmes, les sons de la langue, de sa langue, de son environnement. Ce qui montre que c'est une capacité incessante qui va... À l'école, les enfants ont une soif d'apprentissage incroyable. Ils ont une envie d'apprendre à lire, écrire. Bon, après, à l'adolescence, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais dans les premières années, ils sont présents.
Mais ça va parallèlement à une fulgurance du développement du cerveau aussi. Parce qu'il y a tous ces neurones là qui sont en train de s'agiter dans tous les sens et qui se multiplient à la vitesse grand V.
Oui, quand on dit apprendre, c'est forcément modification de son comportement, acquisition de nouveaux comportements. Et qui dit acquisition de nouveaux comportements, dit forcément... L'enfant va façonner lui-même son cerveau, il va le sculpter. Hein. On dit qu'il y a une révision synaptique, hein. Donc il va aller renforcer les connexions qui sont toujours stimulées. Il va sculpter son cerveau. Et puis, par exemple, pour l'apprentissage de la lecture, des collègues français ont montré que qu'il y avait une capacité à recycler une zone de l'hémisphère gauche qui va être entièrement dédiée à la lecture, alors que préalablement, elle était plutôt dédiée au visage ou aux objets.
Un message de témoignage d'ailleurs d'Isabelle, ma fille âgée de 25 ans aujourd'hui, a participé à son deuxième jour de vie à une étude portant sur la discrimination des syllabes chez le nouveau-né. L'étude consistait à faire écouter au bébé une succession de syllabes répétitives, de noter s'il avait une réaction au changement de syllabe. La réaction du bébé était appréciée sur la qualité de la succion de sa tétine qui était placée dans sa bouche. J'ai cité à l'expérience écrite à Isabelle, absolument pas traumatisante d'ailleurs pour ma fille, que j'ai trouvée super intéressante, le personnel m'avait bien expliqué.
Absolument, c'est tout à fait ce genre d'expérience qu'on continue. Alors c'était une expérience qui utilisait la succion non nutritive. C'est une autre façon de mesurer le comportement du bébé, c'est d'utiliser le fait qu'il va sucer dès qu'on lui met une sucette dans la bouche, il tète, et puis il y a un petit capteur dans la sucette qui va mesurer la pression que le bébé exerce sur la sucette. Et puis en fonction des bruits qu'il entend, des syllabes, pas des syllabes, son pattern d'exploration de la sucette mécanique va évoluer. Et puis si on montre qu'il y a une corrélation entre ce qu'on lui présente, ce qu'on lui fait écouter, et puis comment lui, il appuie sur la sucette, eh bien il va montrer que le bébé, il peut reconnaître et discriminer les syllabes, et c'est quelque chose qui a été largement redémontré récemment.
Jeudi, comment sont nés les nombres avec le mathématicien Michael Launay.
C'est des marchands qui veulent compter leurs moutons, qui veulent écrire des contrats. Alors au tout début, pour pouvoir faire un contrat, ou pour pouvoir notamment les bergers qui partaient dans la cité d'Uruk en Mésopotamie, quand les bergers allaient promener les troupeaux de moutons, les propriétaires voulaient être sûrs qu'il y avait autant de moutons qui reviennent qu'il en était parti. Alors, ils prenaient des jetons au début, qu'on appelle des calculi, qui après a donné le mot calcul. Ouais. Des petits jetons, des petits cailloux, et on les prenait, on en mettait autant qu'il y avait de moutons, et on enfermait ça dans une bulle en argile qui était totalement fermée, qui séchait, et du coup on pouvait pas changer le nombre de jetons sans casser la bulle. Et donc les bergers partaient, revenaient, et quand ils revenaient, on cassait la bulle, on regardait le nombre de jetons et on comptait s'il y en avait autant que le nombre de moutons. Et puis peu à peu, parfois les propriétaires voulaient savoir un peu combien il y a, il se rappelait plus combien il y a de moutons étaient partis, et il pouvait pas casser la bulle, sinon ça rompait le contrat. On s'est mis à dessiner sur la bulle en argile, avec un calam, avec un bout de roseau, les jetons qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, à force on a fait ça encore pendant quelques siècles, et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, puisque c'est dessiné sur les bulles, est-ce qu'il y a encore besoin de mettre les jetons à l'intérieur? Donc, du coup, la bulle en argile, on s'est mis à l'aplatir, et puis on a juste dessiné les jetons. Et ça a commencé à faire l'écriture.
Voilà, l'écriture, le nombre, le chiffre, donc cette émancipation au fond.
Voilà, c'est ça. Alors après, c'est aussi le moment où les nombres vont s'émanciper, qui va venir assez rapidement après. C'est qu'au début, si on veut compter des moutons, on dessine autant de fois qu'il y a de moutons, le symbole du mouton. Mais si on veut compter autre chose, si on veut compter des coquillages ou des pierres précieuses ou des choses comme ça, c'était un autre symbole. C'est-à-dire que trois moutons, c'était trois symboles de moutons, trois coquillages, c'était trois symboles de coquillages. Et puis peu à peu, on se met à écrire un nombre qui va justement s'émanciper
de l'objet.
C'est-à-dire qu'on va écrire un nombre qui sera le nombre 3, suivi du symbole du mouton, nombre 3, suivi du symbole du coquillage. Et là, du coup, ça devient le même nombre pour compter tous les objets. Et donc là, on est dans l'abstrait, c'est-à-dire que du coup, on a un nombre qui n'est plus là pour désigner un objet précis, mais bien pour désigner une idée, c'est-à-dire le nombre 3.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.